EPRA, EPRA.
Terre fidèle qui est la plus éloignée de nous.
Le recrutement de travailleurs destinés aux usines d'armement.
Parce que si on allait chez nous, on travaille un jour, on gagnait 12,50 €. Ici, on demande à manifester, on gagnait 10 €.
Sur lui, il y a une procédure d'expulsion qui est en cours.
Un objectif de reconduite à la frontière pour les clandestins, augmenté encore de 50%.
EPRA, EPRA, échange de production radiophonique.
Chaque personne doit passer un test.
Émission de reportage.
J'ai rencontré quelques pathologies assez rares qui n'existent pratiquement pas en France.
On se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'étrange au fait qu'on n'en parle pas.
Sur Divergence FM 93.9.
Bonjour les Pras, pour résumer, eh bien c'est une banque de programmes radiophoniques alimentés par certaines radios associatives partout en France et RFI, Radio France Internationale. Alors Divergence FM propose ces programmes dans des thématiques précises, lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme, portrait d'artistes qui œuvrent pour la diversité culturelle ou encore eh bien, des reportages sur la politique de la ville. Dans cette émission, vous écoutez les reportages que nous envoyons à les Pras et qui sont diffusés ensuite partout en France et puis aussi des reportages qui viennent des autres radios associatives. Alors au sommaire aujourd'hui, la délinquance et sa prévention. À l'heure où l'implantation de caméras de vidéosurveillance s'intensifie sans vraiment d'arguments, que la police municipale peut s'armer de tasers, eh bien la prévention est plus que primordiale si on ne veut pas vivre dans un monde à la Big Brother où chacun de nos gestes est épié. Dans le premier sujet, vous pourrez suivre un reportage sur le concours vidéo lancé par la Brigade de prévention de la délinquance, un service de la gendarmerie qui intervient dans les établissements scolaires. On écoutera l'adjudant-chef qui coordonne ce concours et les collégiens lauréats de l'ODEF qui ont réalisé un court-métrage en trois parties sur les délinquances sexuelles. Ils se sont montrés plus subtils que les créateurs de ce spot de prévention contre les mauvaises rencontres sur Internet.
Voici Louise, sa famille, sa peluche. Louise va tous les jours sur le net. Elle met des photos sur son blog et espère être remarquée par un réalisateur qui sera peut-être réalisateur de films pornographiques.
Voilà. Après, les parents doivent expliquer ce que c'est que la pornographie. Le deuxième sujet a été préparé par Laure Méravillès de Radio Clapas. Elle s'est entretenue avec Jean-Luc Frizeau, le directeur général de l'ATAM, le transport de l'agglomération de Montpellier, et Jean-Luc Marty, le responsable de son service prévention. Ils nous expliqueront comment ils luttent contre la délinquance.
Et il y a des moments où la compétence plus est apportée, je ne sais pas, dans les cas extrêmes, par exemple, c'est la police. Dans les cas en amont, c'est l'association, le club de foot, les ateliers de cuisine, quelquefois avec les mamans, les ateliers d'alphabétisation, enfin plein de choses.
Voilà, deux sujets aujourd'hui et puis de la musique.
Ooh. just you. It's already been done, undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it.
Penser qu'ils en verront la musique. Gossip seront en concert le 15 juillet dans les arènes d'Onymes. On passe au premier sujet. En 99 est créée la Brigade de prévention de la délinquance juvénile qu'on préfère appeler BPDJ à Lunel dans l'Hérault. Alors il s'agissait de renforcer le partenariat avec l'éducation nationale dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. La BPDJ n'intervient dans les établissements que sur demande des chefs d'établissement. Et en 2009, eh bien, la gendarmerie a souhaité mettre en place un concours vidéo ouvert aux collégiens, ultime phase d'un plan de prévention à destination des élèves. 6 collèges ont relevé ce défi. Parmi les lauréats, les élèves de 3e du collège Paul Dardet de l'Audève. Ils ont préparé un court-métrage sur le thème de la délinquance sexuelle, discrimination envers l'orientation sexuelle, drague pédophile sur Internet et vision de films interdits aux moins de 18 ans. Alors nous les avons rencontrés, avons parlé avec eux de ce concours, des thèmes choisis et de leur relation à l'Internet, le web qui était pointé du doigt dans d'autres courts-métrages qui ont été diffusés. C'était dans le salon de la préfecture ce jeudi. On apprendra avec l'adjudant-chef responsable du projet auprès de la BPDJ et de la psychologue rattachée à l'inspection académique que la majorité des interventions de la gendarmerie dans les établissements de l'Hérault portaient sur la délinquance liée à l'usage d'Internet. Alors nous entendrons des extraits des films lauréats, bien sûr, mais aussi des spots prévenant des méfaits d'Internet. On s'apercevra que les collégiens ont une vision critique, mais moins radicale que leurs aînés qui commandent ces spots, parfois à la limite de la caricature.
Vous êtes des élèves qui venaient d'où ?
Du collège Paul Dardet à l'Audève.
Et donc là, vous êtes une remise des prix. Qui peut m'expliquer ce qui va se passer là ?
Bah, apparemment, on va voir une projection de 2 films, notre prix spécial et le premier prix. Et puis après, je sais pas, apparemment.
Après, il y aura, je crois, un buffet. Et je crois une présentation avec remise de diplôme et voilà.
Si vous êtes là surtout, hein, c'est pour recevoir un prix, mais un prix de quoi ? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir ce prix ?
Bah, à vrai dire, on a fait un film, un concours lancé par l'Académie, en parallèle avec la gendarmerie. Et c'était un film sur la prévention de la délinquance juvénile, voilà.
Il s'agissait de faire quoi finalement ?
De tourner un film. Et en fait, il fallait parler dans ce film, traiter des sujets, on va dire, un peu tabous concernant la délinquance juvénile. Certains ont fait sur les dangers d'Internet, d'autres sur la violence. Nous, personnellement, c'était sur la sexualité.
Alors, de quoi ça parle ? Enfin, qui peut me parler du scénario que vous avez utilisé ? Est-ce que c'était d'abord de la fiction ? Est-ce que c'était
Ça se décompose en 3 parties. Avec la première partie, l'histoire en fait d'un garçon qui aime bien les garçons et donc qui se fait taper à la sortie de son collège.
Ils ont pas le droit de me taper, non ? Ils me frappent à cause de mon choix. Et ce choix, j'ai le droit de le faire, non ? Les garçons, ça me plaît bien.
Et t'en as parlé à tes parents de ce qui s'était passé ?
Non. J'osais pas leur dire. Je leur ai inventé une histoire comme quoi j'étais tombée.
En deuxième partie, il y a une fille qui se rend sur chatroulette sur les conseils de ses amis et qui tombe en fait sur un pédophile, en gros.
Ben, j'ai parlé de moi, je suis rentrée dans le jeu. Et après, il a commencé à déboutonner sa chemise. Après, il a mis sa main dans son pantalon. Et à la fin, il était carrément à poil devant sa cam. J'ai débranché l'ordi en espérant plus voir sa face de comment ça.
En troisième partie, c'est deux jeunes qui sont invités par un de leurs amis et qui tombent dans un traquenard et en gros il les oblige à voir un film porno.
Après le strip des acrobates, les danseuses les sont rejoints. Et là c'était horrible, on a vu des trucs super acrobatiques, super cochons.
Là, on a demandé à mon copain et à sa copine d'arrêter ce foutu DVD, mais au départ, ça semblait plutôt les faire rigoler, mais ils ont fini par accepter.
Mais le mal était fait. On a vu ces images horribles, leurs têtes bizarres et leur sexe.
Ça vous a choqué, vous, de voir ça ?
Oui, beaucoup même.
On a préféré axer sur ça parce que, enfin, au départ, j'avais essayé plusieurs scénarios et puis finalement, c'est venu comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Voilà.
Alors l'écriture du scénario, on doit en conclure que c'est toi.
Oui, c'est moi qui l'ai écrit et puis j'ai fait le montage. Mais sinon, tout le mérite revient à eux parce que c'est vraiment... même il y a plusieurs personnes qui ont dit vraiment vos histoires, ce qui vous est arrivé est incroyable alors qu'en fait, c'est pas du tout... C'est joué, c'est pas du tout des histoires arrivées, quoi.
Vous êtes quatre là, présents aujourd'hui. Vous êtes aussi quatre à avoir participé au tournage. Et qu'est-ce que vous avez pensé du scénario quand vous l'avez lu la première fois ?
Ben, sur le coup, ça nous a... Enfin, on n'avait pas du tout le sujet ni rien. On nous a donné le scénario et ça nous a étonné. Puis après, en fait, on avait le scénario, mais on pouvait ne pas le respecter à la lettre. C'était juste un guide. Après, on mettait un peu ce qu'on voulait pour s'exprimer. Comme nous, on s'exprime tous les jours, comme si c'était vraiment passé. Ouais.
Quand vous regardez ensuite le projet final, ça semble répondre vraiment à ce qui a été demandé. Prévention de la délinquance, là, en l'occurrence sexuelle.
Ouais, bon, forcément, on a toujours un petit peu honte en se regardant, mais oui, ça répond bien. Oui, ça répond très bien au sujet de départ.
Ça répond au sujet, mais pas vraiment. Après, au concours, apparemment, au concours, il y avait d'autres règles et on les a pas vraiment respectées. Mais bon, apparemment, ils ont vraiment apprécié notre travail et tout, donc ils nous ont mis une mention spéciale et tout. Donc on n'est pas dans le classement, on est hors classement.
Voilà, vous n'avez pas respecté toutes les règles, mais vous avez une mention spéciale pour votre travail.
Parce qu'on a eu la meilleure note, c'est pour ça.
J'appelle le colonel Agostini pour remettre le prix spécial du jury aux élèves de la classe de M. Brousson du collège Paul Dardé de l'Odève pour le film intitulé XL.
Bon, allez, la photo.
Moi, je suis l'adjudant-chef Bernard, je commande la brigade de prévention de la délinquance juvénile de l'Hérault.
Et moi, je suis Madame Sueur, je suis psychologue, coordonnatrice pour l'inspection académique pour le plan.
Qui veut nous parler du plan, justement ? Parce que là, on voit qu'il y a gendarmerie d'un côté et puis éducation nationale de l'autre.
C'est pas de l'autre ?
C'est pas de l'autre, c'est ensemble, en fait. Hein. Non, en fait, ce plan a été
à l'initiative
du colonel, fomenté par le colonel, mais... En collaboration,
en partenariat avec l'éducation nationale. Voilà.
Et nous avons toutes les deux œuvré pour la bonne mise en place et le bon déroulement de ce plan.
Nous avons été coordinatrice et animatrice du plan.
Alors, pour parler des buts de ce plan, donc, qui visait en fait à faire tourner des sujets vidéo par des élèves à l'intérieur des collèges, c'était les jeunes qui parlaient aux jeunes, grosso modo.
Ça, c'est la dernière phase du plan, c'était le concours. Mais sinon, bon, y a plusieurs phases du plan dans le courant de l'année, c'est-à-dire une phase préparatoire des établissements scolaires, quelques questions sur le sujet que nous allions aborder avec eux, puis une phase où les membres de la BPDJ, donc de ma brigade, aller parler du sujet à traiter avec les élèves pendant près de 2 heures et une phase de restitution des élèves. Et après, un concours a été proposé pour justement mettre en image tous ces messages de prévention que nous avions passés aux élèves.
D'accord. Donc la restitution, c'est le passage à la vidéo. Voilà.
Tout à fait, c'est ça.
Dans combien de collèges êtes-vous allés à l'intérieur de l'Hérault ?
Donc, nous sommes allés dans 11 collèges et 5 lycées, mais seuls 6 collèges ont participé au concours.
Et ça vous semble normal ?
C'est-à-dire que c'était un petit peu délicat pour les lycées, parce qu'il y a quand même des impératifs d'examen, il y a beaucoup de stages aussi, donc c'était un petit peu... Dans la mesure où ça se déroule toute l'année, en fin d'année scolaire, on était un peu juste pour que les lycées puissent participer. Voilà. C'est une proportion normale. Hein. Il faut aussi quand même souligner que certains collèges et lycées ont créé une vidéo, mais n'ont pas désiré la présenter au jury. Hein. Donc voilà, ils ont travaillé, ils ont fait leur vidéo, mais ils n'ont pas souhaité qu'elle participe au concours.
Vous dites que c'est une phase de restitution, hein, tout ce travail sur le scénario, ensuite le montage, le tournage, et ainsi de suite. Alors on a vu dans les sujets quand même qu'il était énormément question de la délinquance, soit d'Internet, ou soit de la délinquance sexuelle, et quitte à mêler aussi Internet et sexualité. Est-ce que ça, c'est vraiment dont il a été question quand les gendarmes venaient voir les collégiens ou pas ?
Pas forcément, non.
On a eu des vidéos excellentes sur l'alcoolisme. On en a eu sur la violence. Il s'est trouvé que bon, les deux qu'on vous a présentés et qui ont remporté le premier prix sont sur ce sujet-là. Mais bon, sinon, on a eu des vidéos sur tout sujet.
Vous avez une cigarette, les filles ?
Non. Aïe, t'es malade ou quoi ?
Pourquoi tu mens ? Tout le monde sait que tu fumes.
La touche pas !
Doucement, ma belle.
Dégage !
Vas-y, on bouge.
Vous allez où, là ? Vas-y, dégage, là.
Ma belle, toi. C'est quoi ton problème ?
Appelle la pionne !
Fais gaffe. C'est quoi le problème ? N'approche pas.
Dégage, laisse tomber.
Loïc, il a un couteau, putain !
C'est vrai que Internet a été beaucoup traité à la demande des établissements parce que justement, je pense qu'il y a une difficulté de maîtrise des adultes, des parents, des enseignants sont dépassés par l'outil. Les enfants certainement aussi, mais ils en ont moins conscience. Et en fait, c'était sur ce plan-là qu'il fallait surtout agir.
En fait, on a eu une grosse demande des établissements sur le sujet des dangers liés à l'usage d'Internet. Ça, c'était la plus grosse demande dans le plan. Après, il y a eu les violences, il y a eu les autres conduites addictives, mais surtout au niveau des lycées. Mais au niveau des collèges, c'est surtout sur les dangers liés à l'usage d'Internet.
Voici Louise, sa famille, sa peluche. Louise va tous les jours sur le net. Elle met des photos sur son blog et espère être remarquée par un réalisateur. Qui sera peut-être réalisateur de films pornographiques. Aujourd'hui, l'association e-Enfance agit pour que les enfants profitent d'Internet en toute sécurité. e-Enfance, le net qui laisse toutes ses chances à l'enfance.
Toutes les deux, nous allions au contact des chefs d'établissement pour établir quelle était la problématique à traiter
dans leur établissement
à l'instant T. Et après, on partait sur ce sujet-là, en ayant choisi le niveau de classe qui était le plus touché par le phénomène. Voilà.
D'accord. Donc vous choisissiez en plus des classes, certaines classes seulement ?
On choisissait un niveau de classe, mais avec le chef d'établissement et les professeurs qui pouvaient être concernés. Voilà.
Et vous êtes allé dans des collèges dits difficiles ou pas ?
Pas forcément. Les collèges avaient été choisis par l'inspection académique, soit parce que par leur éloignement, on avait Olonzac, Saint-Pons, etc., soit par la demande qui émanait directement du collège, qui souhaitait avoir, comme Gange par exemple, qui souhaitait avoir une aide particulière.
Alors là, on a entendu dans les discours que forcément, quand on fait partie de tout ce qui concerne l'État, qui plus est quand on est adulte, et encore plus quand on a un uniforme comme un gendarme, pour les jeunes, c'est un peu difficile. Est-ce que vous sentez qu'avec ce genre d'opération, qui semble nouvelle, vous avez essayé d'engager ce petit dialogue qui vous permettra peut-être de faire passer votre message ?
Disons, l'opération n'est pas nouvelle, parce que la brigade de prévention de la délinquance juvénile existe déjà depuis 10 ans, et va dans les collèges et lycées depuis 10 ans. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est ce plan. Voilà,
la vidéo.
Qui a été instauré cette année et qui, on l'espère, perdurera dans les années à venir. Ça a été un travail plus en profondeur que ce qu'on faisait avant.
Voilà. Une formalisation des actions de la BPDJ qui, jusqu'à maintenant, effectivement, travaillait déjà dans les collèges et lycées. la formalisation, elle a été dans le sens où justement il y a ce partenariat qui a été signé entre la gendarmerie et l'inspection académique, et donc la mise à disposition aussi d'un personnel de l'inspection académique dans le processus en fait.
Alors, juste une petite question subsidiaire, puisque vous êtes psychologue de formation. Moi, je me souviens, dans ma scolarité au collège, quand on parlait de l'alcool, c'était un alcoolique repenti qui venait. Est-ce que ça, c'est abandonné, ou alors c'est justement plutôt le côté répressif qui est mis en avant, entre guillemets ? Quelles sont les mœurs actuellement dans les établissements ?
Je pense pas qu'il faille dire qu'une chose est meilleure qu'une autre. Que bon,
c'est pas un jugement. Hein.
Non, il y a voilà. Je crois que c'est les gens qui sont sur le terrain au moment où on leur demande et qui ont les compétences pour. Je crois que c'est voilà, ça aurait pu être effectivement un alcoolique repenti qui soit intégré dans le plan. Pourquoi pas ? On peut tout imaginer. Bon, moi, il se trouve que je suis psychologue. Voilà. Je crois que toutes les bonnes volontés sont bienvenues et qu'il y a un vrai travail à faire de fond. Que les professeurs ne peuvent pas tout faire, ils sont là aussi surtout pour enseigner avant tout, et que c'est bien qu'il y ait justement des personnels formés, parce que la brigade de prévention est vraiment composée de personnels formés à l'écoute des jeunes, et aussi pourquoi pas un psychologue d'éducation nationale qui travaille dans l'éducation nationale, donc qui est quand même formé et qui est psychologue de surcroît.
Le soir quand les murs se rapprochent, quand je me sens
votre film a été projeté, visiblement beaucoup de succès pour ce film. Vous avez vu l'autre en revanche, alors qu'est-ce que vous en avez pensé de l'autre qui pointait ? Alors cette fois-ci, vous aviez choisi trois thématiques autour de la délinquance sexuelle. L'autre montage, lui, c'était un seul sujet.
C'était un seul sujet, mais qui portait sur l'enlèvement et sur le chat sur Internet. Nous, c'était peut-être sur trois thématiques, mais le deuxième était sympa aussi parce que ça nous apprend à parler de ce qu'on fait, surtout à nos parents et à nos amis, pour pas se faire enlever, par exemple. Et voilà.
J'ai rencontré un mec.
Ah ouais ?
Ah ouais ?
Il est comment ? Raconte. C'est un gars du collège, tu l'as rencontré quand ?
Non, il est pas au collège, mais il est trop canon, il est super, mais super mignon.
Et il habite où alors ?
À Béziers.
Hein ? À Béziers ? Mais qu'est-ce que t'allais foutre à Béziers ? Comment tu l'as rencontré ?
Bah, sur Internet.
Il est level combien ?
Non, mais c'est bon. Attends, sur Internet ?
Oui. C'est une blague.
Non, pourquoi ? Oh, mais c'est bon, mais stressé. J'ai vu sa photo et tout.
Non, mais tu réalises que c'est peut-être un pédophile, hein ? Et je parie qu'il a pas de webcam, lui.
Bah, non, elle est cassée. Mais en tout cas, il m'a vu sur ma webcam. Il a dit que j'étais trop mignonne, trop belle, trop parfaite. Oh, mais c'est bon, t'as pas de webcam non plus et t'es pas un pédophile.
Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes censé être en cours, allez, dépêchez-vous.
Oui, on révisait.
Oui, bien sûr.
Alors, il était beaucoup question d'Internet quand même. Ça, oui. C'est quelque chose qui est notable sur le premier et deuxième prix. C'est à chaque fois cette délinquance qui est liée à Internet. Alors, même si le colonel de gendarmerie qui a parlé a dit que finalement, c'était pas la peine de diaboliser Internet, vous... qu'est-ce que vous en pensez d'Internet ? Comment vous l'utilisez ? Et voilà, est-ce que vous le voyez comme un petit diable ? Est-ce qu'il faut faire vraiment attention ? Est-ce que vous êtes réceptif à ce genre de conseils ?
Il y a des dangers sur Internet, mais après, il ne faut pas avoir le mal non plus partout. Parce que bon, on est quand même... on a quasiment grandi avec Internet. Il faut s'en servir comme un moyen de communication aussi. Ça fait partie de la vie actuelle. Tout le monde aujourd'hui a quasiment Internet. Enfin, je sais pas, c'est...
Mais c'est très bien, hein. Vous avez grandi effectivement avec Internet, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une vigilance qui s'en va comme ça, avec trop d'habitude ?
C'est difficile à dire, parce qu'après, il y a les personnes ont des points de vue différents, donc selon les points de vue des personnes...
Un pseudo peut cacher n'importe qui. Ne donnez jamais votre nom, votre adresse ou votre téléphone. N'acceptez jamais de rendez-vous sans être accompagné. N'envoyez ni photos ni vidéos de vous ou de quelqu'un d'autre. Si une image ou un message vous choque, parlez-en à un adulte. Soyez vigilant sur Internet.
Alors là, on le voit, il y a un déficit de parole hein, pour ceux qui sont victimes dans vos films. Est-ce que vos parents savent ce que vous faites sur Internet ?
Oui, la plupart du temps, sur Internet, c'est pour des recherches et voilà, des exposés, tout ça. Mais pour un peu de loisirs aussi. Et le truc, c'est que si on était bien informé, on sait qu'il y a des niveaux de sécurité. Et l'avantage maintenant avec Internet et tous les problèmes actuels, c'est que maintenant, de plus en plus souvent, ils mettent des niveaux de sécurité. Et c'est nous qui voyons le niveau de sécurité qu'on veut mettre. Et souvent, ça, on en discute avec les parents.
Alors, durant votre scolarité au collège, vous avez forcément rencontré cette section de prévention de la délinquance de la gendarmerie. Alors, eux, ils ont mis en place donc ce à quoi vous avez participé, ces films qui ensuite vont être diffusés dans les collèges. Est-ce que vous trouvez que c'est plus pertinent que le discours d'un gendarme qui vient vous expliquer son métier, ce qu'il rencontre ?
Comme disait M. Brusson qui nous a aidé à monter ce projet, qui nous a chapeauté pendant ce projet, c'est plus important ces vidéos, ça flash plus les esprits. Qu'avant, quand ils venaient pour les drogues, par exemple, ils arrivaient avec leur mallette, ils ouvraient, ça, c'est ça, c'est pas très bien. Les longs discours, des fois, ça assomme, alors que là, c'est des films assez courts, assez prenants, avec des personnages auxquels on peut se rapprocher. Et je pense que ça nous met plus dans le bain pour ouvrir un débat pour la suite.
Voir des personnes de notre âge témoigner, ou même jouer, c'est déjà plus intéressant que... Un vieux qui va. Plus qu'un adulte qui va parler.
Oui, et on se rapporte plus à des jeunes qu'à quelqu'un qui fait un discours long et éprouvant. Alors que là, c'est court et on peut s'y rapporter.
Voilà, c'était un reportage réalisé dans le grand salon de la préfecture de l'Hérault ce jeudi, lors de la remise des prix du concours vidéo dans le cadre donc du plan de prévention de la délinquance juvénile mené par la gendarmerie conjointement avec l'éducation nationale. Alors suite à la polémique des apéros Facebook et aux divers coups de filet médiatisés des réseaux pédophiles, il y a peu de chances que la brigade de prévention de la délinquance juvénile cesse les mises en garde contre les multiples dangers d'Internet. Alors pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez aller sur... l'article qui concerne cette émission sur le www.divergence-fm.org. Je cite notamment un article d'un des grands spécialistes du flicage d'Internet, Jean-Marc Manac, qui est journaliste affilié au Monde, en tout cas qui a un blog affilié au site Le Monde, qui a signé un article il y a très longtemps qui s'appelle « Les pédophiles n'ont rien à craindre de la LOPSI, les internautes si », tout simplement parce que quand on se met à faire des lois de filtrage, il est évident que ceux qui sont concernés au départ par cette loi trouvent toujours des méthodes pour les contourner et qu'en revanche, ceux qui sont insouciants sur Internet ou les utilisateurs lambda, eux, sont souvent victimes de ces censures parce que tout simplement, les faillis, comme c'est déjà le cas, les fournisseurs d'accès Internet, comme c'est déjà le cas en Angleterre, commencent à censurer certains contenus dont Wikipédia sans véritable raison, tout simplement parce qu'il y a une image qui montre un enfant dénudé, comme c'était le cas pour une des pochettes de l'album de Scorpion. Voilà, donc c'est toutes ces petites lois qui, au bout d'un moment, vont empêcher Internet d'être cette grande toile libre. Alors évidemment, il est hors de question de cautionner tous les crimes, mais il y a plein de moyens de lutter contre la pédophilie sans contraindre tous les citoyens. Et c'est le travail, justement, de la gendarmerie, entre autres. Voilà, donc, c'est terminé sur ce sujet. On va, avant de retrouver Laure Méravillès de Radio Clapas, qui va nous parler avec les responsables de la TAM, de la prévention de la délinquance, on fait un petit détour en musique entre Hollande et Kenya. Et... We'll be right back. Et oui, ce n'était pas du tout le Kenya, évidemment, c'était l'Éthiopie, avec un extrait de cette compile éthiopique, Getachew Mekuria, et puis ZX, donc groupe post-punk hollandais. Ils étaient eh bien tous les deux, c'était l'an dernier, à 7, pendant le Fiesta 7. Alors, on passe au deuxième sujet, dernier sujet pour le coup, hein, qui a été préparé donc par notre confrère Laure Méravillès de Radio Clapas. On va faire un tour du côté de l'ATAM avec les petites incivilités, les grèves aussi du personnel. Tout ça mêlé et on va voir eh bien, comment le service de prévention de la délinquance se débrouille avec tout cela.
Pour desservir les 31 communes de l'agglomération de Montpellier, la TAM gère les bus et les tramways. Une troisième ligne est en cours de construction. Elle permettra de relier la ville à la plage, une version moderne du petit train de Palavas. En attendant, le train-train quotidien des Montpelliérains est fortement perturbé par les déviations à répétition qui vont de pair avec une saturation du réseau routier liée à l'augmentation de la population, donc du parc automobile et du stress des conducteurs. Le début 2010 a été marqué par des incivilités, des agressions de chauffeurs et de contrôleurs suivies de mouvements de protestation et de grève de ces derniers. La TAM fait toute l'année des efforts pour limiter ces faits, comme nous l'explique Jean-Luc Frisot, le directeur général de la TAM, et Jean-Luc Marty, le chargé de prévention, heureux d'avoir été une nouvelle fois récompensé par la fondation Transdev.
Une phrase qui était le leitmotiv, on va dire, dans le service prévention, c'était « changer le regard pour changer le comportement ». Donc, évidemment, très modestement, au départ, on pensait que c'était les autres qui devaient changer leur regard sur nous, mais on s'est vite rendu compte que ça devait jouer dans les deux sens. Et finalement, ça nous interpelle, ça nous interroge en permanence, mais ça nous amène aussi vers des pistes à rechercher et des solutions parfois à trouver. Et l'exemple de Transdev, qui nous aide énormément, avec des grands critères qui sont évidemment de mettre en avant les grandes valeurs, la solidarité, qui s'exerce entre parenthèses aussi dans le transport public par des aides, parce qu'on oublie de le dire, mais on est solidaire nous par rapport à la population. Quand on a des cartes qui permettent d'aider les moins favorisés, qui n'ont pas forcément l'accès tous au transport, eh bien nous on leur donne la possibilité de se déplacer. On fait le service qui va bien à la clientèle et pas qui nous va bien à nous, on est à l'écoute, on adapte. Mais aussi, enregistre dans la mesure du possible, quand elle choisit de soutenir un dossier, la création d'emplois derrière. Et quelque part, à travers toutes ces subventions qu'on a eues, ça nous a permis d'avoir quelques heures de subventionnés, des emplois pour des associations et autres, ponctuellement, parfois c'est un temps, bien sûr, mais c'est toujours ça. Voilà.
J'aimerais qu'on revienne sur les stratégies de prévention. Vous l'avez dit, c'est aussi en interne que vous travaillez sur la formation des conducteurs de bus et de tramway. C'est important de ne pas avoir soi-même un comportement qui peut aboutir à la crise. C'est ça que vous expliquez à vos employés ?
Tout à fait. D'abord, pour reposer le problème, si vous voulez. Pour nous, il y a trois éléments essentiels. C'est le personnel. On a la prétention de dire qu'on a du personnel compétent. Il est évidemment sélectionné pour... Il est formé en permanence, donc on a du personnel compétent. Le matériel, on a du matériel de qualité qui correspond aux normes nécessaires de sécurité. Il est entretenu, le matériel est propre et nettoyé tous les soirs par respect pour la clientèle. Il y a un élément dont on ne maîtrise pas tout, c'est les comportements. Donc là-dessus, modestement, on a choisi d'essayer d'intervenir un peu à notre façon en expliquant. Parce qu'en fait, on n'est pas ni donneur de leçons, on est très modeste. Mais par contre, on croit à l'intelligence. Et on est tellement fiers de notre métier de service public que logiquement, la majorité adhère à ça. Donc, à travers ça, on a les premières personnes qu'on voit, c'est les personnels qu'on a sur le terrain, que ce soit les conducteurs ou les vérificateurs, enfin tout ça. Et on a des gens compétents. Alors on s'est dit, le meilleur moyen, c'est quand même de les aider, parce qu'ils ont un métier quand même difficile, qu'ils sont au contact de la population, mais dans plein de difficultés, on ne va pas revenir là-dessus. On leur a donné les moyens à eux d'être savoir. Ils ont leur caisse à outils, si vous voulez. Ils sont compétents, mais à eux, on ne peut pas leur dire qu'il faut utiliser le tournevis ou le marteau ou la clé à molette. Mais vous sachez que vous avez ça dans votre caisse à outils, et en fonction de la situation rencontrée, vous utilisez l'outil qui vous paraît aller bien. Voilà, donc c'est de la confiance. Et donc l'idée, c'est de dire, si on évite de fabriquer des conflits, ou si on sait venir les choses, eh bien finalement, on a une situation beaucoup plus saine et les choses se passent mieux. Voilà.
Un exemple concret, c'est quoi le comportement le plus approprié pour le conducteur ?
Alors déjà, je poserai la question, et si l'usager déjà il commence à dire bonjour, c'est nettement plus simple. Pour tout le monde, on a déjà fabriqué, la relation existe. Voilà. Donc ça peut être super. Mais l'inverse, c'est le conducteur qui veut dire bonjour. Donc souvent, ça désamorce. Voilà. L'accueil, c'est une chose. Après, on a des situations de provocation. Le tout, c'est de ne pas se laisser aspirer, de comprendre. Et ça, je tire un coup de chapeau quand même aux personnes sur le terrain. Ils sont capables de ne pas se laisser aspirer. Et ils sentent où on veut les amener, ce n'est pas intéressant. Donc ils sont au-dessus de ça, globalement. Et ils arrivent à désamorcer en ne se laissant pas entraîner sur les terrains où il ne faut pas aller, quoi.
Alors, souvent, en cas d'agression de conducteur, ça a été le cas récemment, la solution, c'est aussi la grève pour alerter l'opinion publique, les Montpelliérains, de la situation. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un échec de l'outil de prévention, puisque aussi ces moments de grève peuvent agacer les usagers et renforcer justement ces difficultés de communication entre usagers et employés de la TAM?
Je crois qu'on ne peut pas avoir l'ambition d'éliminer, je dirais, toute agressivité ou tout acte, je dirais, d'agression. Notre objectif, c'est de maîtriser, réguler, gérer au mieux. Donc il y a aussi, quand il se passe effectivement une agression qu'on ne peut bien sûr que déplorer, donc il y a l'expression parfois du personnel, un cri de colère, qu'on peut comprendre. Bon, moi je souhaite effectivement qu'on puisse... Ça puisse, si tant est que ça existe, faire tout en prévenant par avance notre clientèle, parce que c'est important aussi, je dirais, de permettre à notre clientèle de s'organiser en conséquence. Elle comprend parfois aussi, je dirais, la difficulté du quotidien des conducteurs et des conductrices.
Au niveau de la prévention, il me semble qu'on peut dire qu'on a évité le style de l'attaque de la diligence. Franchement, dans les quartiers, quand on voit avec les gens avec qui on a des relations, On est aussi chez nous, quoi. Il n'y a pas de phénomène de rejet. Par contre, on n'est pas à l'abri du pétage de plomb, qui va pas forcément se passer d'ailleurs aux endroits où on s'imagine que ça va arriver. Mm-hmm. Donc là, on a forcément des limites. Par contre, à travers la prévention d'une part et tout ce qui est fait entreprise de le soutien partenarial, c'est-à-dire que chacun on a aussi nos limites de compétences. Et il y a des moments où la compétence plus elle est apportée, je sais pas, dans les cas extrêmes par exemple c'est la police, dans les cas en amont c'est l'association, le club de foot, les ateliers de cuisine quelquefois avec les mamans, les ateliers d'alphabétisation, enfin plein de choses où on va avant que le problème arrive, quand on sent monter des petits détails, on va commencer à sensibiliser et on se rend compte que souvent, on est aidé, on a des gens en face de nous qui comprennent, puisque globalement, on défend la même chose, on n'attaque personne, mais on veut que ça marche bien pour rendre un bon service à la clientèle ou donc au public. Mais là-dedans, forcément, il y a des limites et on peut jamais complètement garantir.
Autre outil pédagogique, je crois que cette année, la Fondation Transdev vous a financé pour une action plus multimédia, audiovisuelle en tout cas.
Oui, alors là, de nouveau, c'est remonté par le CLSPD, puisqu'il y avait une chercheuse qui était présente aux réunions des groupes territoriaux et qu'ils avaient émis l'idée, à travers l'étude du langage, de décoder l'évolution et pour arriver de la violence verbale petit à petit, toujours à gradation, qui peut mener à des situations beaucoup plus graves. Et donc l'idée, c'était de fabriquer un DVD avec les CRDP, notamment le CRDP de Montpellier, qui va fabriquer un outil, donc, un DVD, qui doit servir aux enseignants, puisque le CRDP, c'est une sorte de banque d'outils à disposition des enseignants. Donc nous, TAM, puisqu'on est partie prenante là-dedans, on aura aussi des DVD qui pourront nous servir en interne, soit à des formations, soit, enfin, ce sera un outil, voilà. Et on va y participer dans le sens où Transdev va subventionner à hauteur de 6 000 euros, ce qui n'est pas rien. Et donc nous, TAM, on est en train de travailler actuellement avec les gens du CRDP et les chercheurs, de façon à construire quelques scénettes qui nous permettront de noter l'évolution des situations. Et on va travailler aussi avec des associations qui font dans le théâtre Forum, de façon à décoder et à voir qu'à la limite, quelquefois, il suffit simplement de changer un mot au cours d'une conversation et le résultat n'est complètement différent. Donc à la limite, au lieu d'être à l'agression, finalement, on se dit au revoir et tout le monde est content.
Yeah.
Au niveau des mots, justement, on a assisté à un changement de vocabulaire à Montpellier. On ne dit plus la paillade, on dit la mousson. Donc on change aussi, j'imagine, peut-être les noms des stations, des arrêts, de bus de tramway. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans les quartiers du comportement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des quartiers plus dangereux que d'autres? Ou est-ce qu'avec l'effort de la ville sur la mixité sociale, est-ce que ça se ressent dans les transports?
Alors, je vais répondre pas forcément dans le sens où vous m'avez posé la question. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, on est conscients de notre métier de service public. Donc, malgré toutes les difficultés, ce dont vous parliez tout à l'heure, quelquefois, il y a des trucs difficiles qui se passent. Jamais on a refusé d'aller desservir dans les endroits qui sont identifiés, ou tout au moins parfois par le public, comme étant difficiles. Notre mission, c'est d'aller chercher les gens là où ils sont. Et souvent, là, on a quelquefois des difficultés à les endroits où les gens sont les plus malheureux. Et justement, nous, on ne les abandonne pas et on continue à y aller. Par contre, on essaie de se donner des moyens pour se rencontrer autrement. Et je ne sais pas si je vais le dire correctement, mais si on doit s'exprimer, ce n'est pas en cassant du bus qu'on s'exprime bien, à mon sens. Parce qu'on amène finalement encore des difficultés à ceux qui en ont déjà. Donc nous, c'est sur ce terrain-là sur lequel on va. On continue à y aller et on continue à croire que ces gens ont besoin de nous. On continue à croire qu'on leur doit le service et le service de qualité. Parce qu'on a été sacrément fiers. La prévention, on a démarré depuis 98. Quand on a mis en 2000 le tramway sur le quartier à lequel on porte un tas de choses à Montpellier et qu'on connaît bien et qui est un quartier merveilleux, on a été sacrément fiers que notre tramway il aille à la mousson.
Mais je dirais que nous, tous les jours, on fait de la mixité sociale, on la rencontre tous les jours, parce que par nature, dans une rame de tramway, une rame de bus, je dirais, il y a de la population qui est mixée, par son âge, par son origine, par... Bon, donc... Voilà, c'est une réalité sociologique qui est une richesse. Et il faut que nous, effectivement, on la positive et qu'on fasse en sorte que cette mixité sociale, ben, elle se passe au mieux à l'intérieur du véhicule. Voilà, donc, bien sûr, tous les efforts faits par l'agglomération, nous, ils nous aident et ils nous aident aussi dans cette mission. Mais on rencontre tous les jours et on fait tous les jours de la... Je ne vais pas employer le terme de gestion, mais en tout cas, de vécu de la mixité sociale et... Et c'est ce qu'on essaie de, voilà, par toutes les actions qu'on mène, je dirais, de piloter au mieux.
Vous seriez favorable au développement d'une police des transports sur Montpellier? Ça a été évoqué, c'est des fois demandé par des usagers. Quelle est la voie officielle de la TAM là-dessus?
Il y a des efforts qui ont été faits avec la création de l'USTC il y a quelques années. Donc effectivement, je dirais, tout apport complémentaire... qui complète notre propre organisation, parce que nous n'avons pas de pouvoir de police, donc nous ne souhaitons pas en exercer, hein, chacun son métier, mais on sent bien que de temps en temps, effectivement, on a besoin de ces pouvoirs régaliens à nos côtés pour être plus efficace. Donc toute action qui va dans un renforcement bien pesé, bien construit, avec une bonne interface entre nous et ces équipes, va dans le bon sens. C'est évident.
Souvent, l'uniforme, c'est un peu compliqué. Le rôle du contrôleur peut être associé à celui un peu de la police. Est-ce que ce n'est pas le personnel le plus en difficulté dans son rapport humain à l'usager?
Il considère quand même que l'uniforme reste une aide. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a quand même une forme de respect, quand même, je dirais, du statut. On sait que si on agresse ou si on crée de l'incivilité vis-à-vis d'une personne qui a un pouvoir qui lui est quand même conféré ou en tout cas illustré par son costume, ça peut quand même créer un peu de distanciation, un peu de réserve. Donc les contrôleurs, pour moi, je ne les ai pas sentis demandeurs de ne plus être en uniforme, bien au contraire.
Ils luttent donc contre la fraude. La fraude, ça fait partie justement de la lutte contre la délinquance.
Alors, je réponds encore une fois un peu décalé, mais on a connu par expérience, à une certaine époque, un taux de fraude extrêmement élevé sur certaines lignes. Et on s'est rendu compte que quand on a ramené de la règle, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de dégradation à l'intérieur des véhicules et que là, on a regagné de la fréquentation par rapport à certains publics et le public était beaucoup plus à l'aise durant le temps de trajet. Et évidemment, le personnel s'en est trouvé mieux aussi. Donc il y a aussi quelquefois une relation entre ceux qui fraudent et ceux qui posent problème.
Est-ce que vos personnels sont formés à la gestion du stress ou est-ce qu'il y a des ateliers d'aide ou de soutien psychologique pour les conducteurs ou les contrôleurs qui sont soumis tous les jours à un stress particulier? La circulation à Montpellier, c'est compliqué. La relation à l'usager aussi, on l'a évoqué. Est-ce que vous faites quelque chose concrètement pour votre personnel?
C'est d'abord tout le travail amont, parce que former, c'est former aussi à mieux gérer les situations potentiellement conflictuelles. Bien évidemment, il y a tout le rôle de l'encadrement qui est là aussi, je dirais, pour accompagner, écouter, prendre en charge aussi les moments de difficulté que chacun d'entre nous peut connaître. Et puis, il y a bien sûr, en cas d'agression, etc., il y a un accompagnement complémentaire qui est fait. Ceci étant, avec les partenaires sociaux, on a prévu de revisiter, je dirais, notre système d'accompagnement amont et aval. Et puis, il y a les accords qu'on doit conclure en ce qui concerne la gestion du stress, parce que c'est vrai que, par nature, le métier de conducteur ou de conductrice, mais d'autres métiers aussi où la sécurité est très très importante. Nos régulateurs au PCC ont aussi leur forme de stress parce que la sécurité est majeure. Donc, dans une entreprise de transport, tout le monde est globalement confronté à un stress bien particulier. Donc, on fait des choses, mais on va revisiter, voir si on peut compléter, voir si on peut adapter tout ce système effectivement d'accompagnement du stress.
C'est la pénibilité qui est ou pas reconnue dans la TAM, puisqu'on entend parler justement de procédures au prud'homme, de problèmes sociaux à l'intérieur de l'entreprise TAM. Est-ce que c'est la pénibilité qui n'est pas reconnue?
Tout métier a une forme de pénibilité. Donc le métier de conducteur, conductrice ou autre n'échappe pas à cette règle. Moi, je pense que la meilleure façon de traiter les problèmes de pénibilité sont d'abord dans l'organisation du travail, la façon de gérer, je dirais, le quotidien des conducteurs. La compensation financière étant une forme de reconnaissance, mais qui existe aujourd'hui déjà au travers du salaire. Et je pense que c'est plus là-dessus qu'il faut qu'on travaille que, je dirais, une simple compensation financière qui serait un replâtrage, mais qui ne traite pas le problème de fond.
C'était Jean-Luc Frizeau, le directeur général de la TAM, et Jean-Luc Marty, le responsable du service prévention, pour la présentation des actions de lutte contre les incivilités routières dans l'agglomération de Montpellier. Le respect, c'est pas à sens unique. Une émission réalisée par Laure Méraville.
Eh oui, Laure Méraville. Et pas Méravilles, donc, de Radio Clapas, qu'on remercie. Radio Clapas, qui fait partie du réseau EPRA, échange de production radiophonique, dont cette émission, eh bien, passe des extraits ou complètement, eh bien, les reportages et documentaires qui sont sélectionnés. Avant de se quitter, eh bien, on va faire un petit tour du côté de Coco Rosy, qui était à 7 ce 4 juin.
Αγε μη χάντε, μη χάντε χάς και ας γέλιο ο μαλλός. Δίγε άσκη να δωρά.
Gone. C'était Coco Rosy dans l'émission EPRA qui s'achève. Et on ne se quittera pas sans rappeler que le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a bien été condamné pour injure raciale. C'était vendredi dernier. Alors bien sûr, il a fait appel, donc il faudra attendre le résultat de l'appel. Il n'empêche, voilà, c'est une grande première parmi les ministres de l'Intérieur qui finalement disent tout haut, parfois ce qu'ils pensent tout bas. C'était l'émission EPRA. Je remercie Manu à la technique et on se retrouve la semaine prochaine.